الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas fait exister sur terre en nous abandonnant, en nous laissant dans l'errance sans ordre, sans interdit, et il ne nous a pas créés sans sagesse ni sans but, mais il nous a créés en toute vérité et pour concrétiser une grande vérité. Et la réalité éclatera le jour de la résurrection. Il nous dit dans son livre, خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Élevé soit-il au-dessus de ce qui lui associe. Il nous dit également dans son livre, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Et nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qu'il y a entre les deux en vain. Ceci est la croyance de ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru du feu. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلَ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. Allons-nous rendre ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres les égaux de ceux qui sèment le désordre sur la terre? Est-ce qu'on va rendre les gens pieux semblables aux criminels? Dans ces versets, Allah Azza wa Jal nous montre que la croyance de ceux qui sont dans le faux et qui n'ont pas foi en Allah, c'est que toute cette création a été créée en vain. Or, la croyance qu'Allah Azza wa Jal nous a enseignée dans le Coran, la croyance que le prophète alayhi salatu wa salam nous a enseignée dans la Sunna, c'est qu'Allah nous a créés pour une grande sagesse et pour un grand but, qui n'est autre que de le connaître, de connaître de sa perfection, de sa science parfaite, de sa sagesse, afin de pouvoir l'adorer, de son omnipotence aussi, afin de pouvoir l'adorer seul d'un culte sincère. Il nous dit dans son livre, comme vous l'avez entendu dans la récitation dans Salatul Tarawih, Allah الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah est celui qui a créé sept cieux, pareillement pour les terres. L'ordre descend entre les deux, afin que vous sachiez. Pourquoi est-ce qu'Allah a tout créé? Afin que vous sachiez qu'Allah est parfaitement omnipotent et que de sa science il a embrassé toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous créés. Allah a tout fait afin qu'on connaisse de sa perfection. En connaissant de la perfection d'Allah, tu vas mettre en pratique la conséquence de cette science. Dans sourate Dhariyat, Allah te dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Allah Azza wa Jal a fait le premier pour que tu fasses le deuxième. Allah t'a créé afin que tu l'adores seul d'un culte sincère. Il nous dit dans son livre, Inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Il y a dans la création des cieux et de la terre, l'alternance de la nuit et du jour, des signes pour les gens doués d'intelligence. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ceux qui mentionnent Allah, debout, assis, allongés sur leurs flancs, et méditent sur la création des cieux et de la terre, en disant, ô notre Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain, prémunis-nous du châtiment de l'enfer. Voici la croyance des gens de l'islam. C'est qu'il médite sur la création d'Allah. Il médite sur tout ce qu'Allah a fait. Et ça les amène à un grand résultat. C'est qu'Allah n'a pas créé tout cela en vain. Allah Azzawajal est bien au-dessus de tout cela. Il est sage, il est savant, il est omnipotent et il nous a créés pour une grande sagesse. C'est pour l'adorer seul d'un culte sincère. Et ceux qui n'avancent pas sur cette croyance vont le regretter très amèrement. Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Pensiez-vous que nous vous avions créé en vain et que vers nous vous ne serez pas retournés? Allah est au-dessus de cela. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour une grande sagesse, on doit tous l'étudier. Il nous a créés pour un grand but, on doit tous le concrétiser. Et les gens de l'enfer, alors qu'ils seront en enfer, vont être blâmés de la sorte. Ils vont être blâmés avec ces termes. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. Pensiez-vous que nous vous avions créé en vain, c'est-à-dire sans sagesse et sans but à accomplir? Allah nous dit dans le Coran, أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًا. Est-ce que l'homme pense qu'on va le laisser ainsi? Abdullah ibn Abbas dit dans le tafsir radiallahu anhuma, c'est-à-dire sans lui donner d'ordre ni d'interdit. Après avoir compris cela, mes très chers frères, sachez que lorsqu'Allah Azza wa Jal nous donne un ordre, il y a 7 points à respecter. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous ordonne une chose, nous incombe à nous, ses serviteurs, 7 points à respecter, 7 obligations. Que Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdil Wahhab, rahimahullahu ta'ala, a appelé wajibuna nahwa ma amarana Allahu bih, ce qui nous incombe face à ce qu'Allah a ordonné. Et ces 7 points, ikhwat al-iman, ce qui vous est demandé, c'est premièrement de les noter. Deuxièmement, de les comprendre. Troisièmement, de les mémoriser. Quatrièmement, de les appliquer. Cinquièmement, de les répandre et les propager. Ce qui nous incombe à tous, écrire ces 7 points, comprendre ces 7 points, appliquer ces 7 points, propager ces 7 points, afin que cette science nous soit bénéfique pour nous en notre faveur et non pas contre nous en notre défaveur. Lorsqu'Allah t'ordonne une chose, la première chose qui t'incombe, c'est ma'rifatu hadha al-amr. C'est la science de cet ordre. Tu dois savoir et étudier l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-ilmu bi. C'est la première chose. La connaissance de ce point. La deuxième chose, mahabbatu. Tu dois aimer cet ordre d'Allah. Le deuxième point, tu dois aimer cet ordre d'Allah. Le troisième point, al-azmu ala fi'li. Tu dois être déterminé pour le mettre en pratique. Quatrièmement, al-amalu bih. Tu dois le mettre en pratique. Le cinquième point, kaunuhu yaqa'u khalisan sawaba. Le cinquième point, tu dois faire en sorte, lors de sa mise en pratique, qu'il soit fait sincèrement pour Allah et en concordance avec la sunna de son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Le sixième point, at-tahdhiru min fi'li ma yuhbituhum. Tu dois prendre garde à faire tout ce qui pourrait annuler ou entacher ton action. Tu dois prendre garde à faire tout ce qui pourrait annuler ou entacher ton action. Et septièmement, al-thabatu alayhi. Rester fermement dessus, c'est-à-dire la constance et la régularité. Voici sept points qui nous incombent à tous face à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après avoir mentionné ces sept points de manière générale, on va prendre ces sept points les uns après les autres. On va les expliquer, les étayer et les orner par la révélation à travers le Coran et la Sunna de du prophète alayhi salatu wa salam.
Prenons le premier point. Le premier point, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne une chose, on a dit, c'est l'ilmu bih. C'est la science, c'est la connaissance. C'est pour cela qu'il y a de très nombreux textes qui vantent les mérites de la science, qui ordonnent la recherche de la science, qui exaltent le niveau des savants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, fa'lam annahu la ilaha illallah, wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minin wal mu'minat. Sache qu'il n'y a point de divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah. Et demande pardon pour tes péchés, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla a ordonné à son prophète la science. Il a ordonné à son prophète la science avant la parole. Comme a dit l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Aussi, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. L'étude de la science est une obligation qui incombe à chaque musulman. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son messager de lui demander l'augmentation de science. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا et dit au Monseigneur, accrois mes connaissances. Allah Azza wa Jal a grandement valorisé la science, les gens de science. C'est pour cela que ceux qui ont le plus haut rang en islam, ce sont les prophètes et les messagers, car ils sont ceux qui connaissent le mieux Allah. Donc le craignent le mieux, l'aiment le plus, espèrent le plus en lui, ou ce qu'il y a auprès de lui. Puis ce sont leurs héritiers. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Wal-ulama warathatul anbiya. Wa inna al-anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirhama wa inna ma warathu al-ilm. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. » Et les savants sont les héritiers des prophètes. Et certes, les prophètes n'ont légué ni pièce d'or ni pièce d'argent. Ils ont légué la science. Celui donc qui prend la science aura pris une énorme part. Les ulamas, on doit les considérer. On doit les valoriser. On doit les aimer. On doit les mentionner en bien. On doit les secourir. On doit voyager vers eux à la recherche de la science. On doit les interroger dans nos affaires. Et il convient à l'étudiant en science et aux musulmans d'avoir des références, des savants fiables, les savants du Coran et de la Sunna, les héritiers des prophètes. Et à notre époque, wallahalhamd, ils sont nombreux. Et ils ne sont pas dans un seul pays ou dans un seul continent. Certains, nous les connaissons et d'autres, nous ne les connaissons pas. Parmi les grands savants vivants encore présents, il y a Al-Allama, Salih Al-Fawzan, Hafidahullahu Ta'ala. Parmi les grands savants vivants, il y a Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, Hafidahullahu Ta'ala. Parmi les grands savants vivants, il y a Cheikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, Hafidahullahu Ta'ala. Et beaucoup d'autres, que ce soit dans ce pays, que ce soit dans d'autres pays. Naam. En Algérie, tu trouves aussi des ulama comme Cheikh Abdel Ghani Ouaiset, Hafidahullahu Ta'ala, Cheikh Izz ad-Din Ramadan, hafidahullah ta'ala. Et quand tu te décales dans d'autres pays, tu en trouveras d'autres. Ces savants, il faut les connaître. Ces savants, il faut voyager vers eux et prendre leur science. Car le prophète, alayhi salat wa salam, a dit, on ne retire pas la science en la faisant disparaître. En la retirant de la, du cœur, du cœur des serviteurs ou des savants directement. Mais avec la mort des savants. Hatta idha lam yubqi aliman aw lam yabqa alimun ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus de savants. Alors les gens prennent à leur tête des ignorants. Ils les interrogent. Ils leur répondent. Ils s'égarent et égarent les autres. Donc sachez de qui vous prenez la science. Sachez vers qui on revient. On revient aux ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ceux qui élèvent l'emblème du tawhid haut et fort. Ceux qui appellent les gens à sortir de l'adoration des créatures vers l'adoration du Créateur. Ceux qui appellent les gens vers le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam, avec science, avec sagesse et avec miséricorde. Ces gens-là ont le plus haut rang en islam. Ils te permettent de savoir le chemin qui mène à Allah, qui mène à l'agrément d'Allah. C'est pour cela que le prophète alayhi salat wa salam nous dit, quant aux savants, tout ce qu'il y a dans les cieux, tout ce qu'il y a sur la terre, jusqu'aux poissons dans l'eau, invoque le pardon d'Allah en sa faveur. Invoque le pardon d'Allah en sa faveur. Même l'animal tire profit de la da'wa du alim. Même l'animal. Fala hawla wa la quwwata illa billah. La place des ulama, elle est grandiose. Il faut considérer les ulama. Il faut les valoriser, il faut les faire connaître. Et il n'appartient pas à l'étudiant en science de voyager quelque temps dans un pays, de prendre l'arabe, de se trouver de l'éloquence, et ensuite d'aller prêcher sans faire connaître les ulamas et ceux qui l'ont précédé, en pensant pouvoir se distinguer, en pensant pouvoir s'émanciper, en pensant pouvoir couper le lien entre lui et les ulamas, et s'esseler pour faire un nouveau prêche et une nouvelle voie. Ceci est le chemin de l'égarement. Le fait de s'éloigner des ulama, le fait de ne pas revenir ulama, et de penser pouvoir prendre directement, maintenant que je suis arabophone, dans les livres des pieux prédécesseurs, et ne pas revenir ulama, ne pas les questionner, ne pas les regarder pour prendre exemple sur eux, ça c'est le chemin de l'égarement. Et on en a vu plein passer. Aller étudier 1 an ou 2, 5 ans ou 10, et ensuite ne plus revenir ulama et penser pouvoir s'émanciper, na'am, et faire un nouveau mouvement ou autre. Ça, c'est un chemin de l'égarement. Reste humble, t'es petit, tu demeureras petit. Mais tant que t'es petit derrière les montagnes qui sont nos savants, tu seras préservé et en sécurité. Tu seras préservé et en sécurité. Sinon, tu seras à l'image de la brebis qui s'est échappée du troupeau, qui s'est perdue. Elle est dans une vallée. Et il y a plein de loups autour. Que pensez-vous de cette brebis et de sa finalité? Qu'Allah nous préserve de suivre le mauvais chemin de ceux qui ont fait 1 ou 2 ans d'arabe et ensuite se mettent à dénigrer et se mettent à rabaisser ceux qui les ont précédés et ceux qui nous ont enseignés parmi les ulamas de Ahl Sunnah. Barakallahu fikr. Une fois que tu as étudié cette chose-là, une fois que tu as su que c'était un ordre d'Allah, un ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième point, c'est que tu dois l'aimer. Le deuxième point, c'est que tu dois l'aimer. Qui t'a ordonné cette chose? C'est Allah. Et tout ce qu'Allah azza wa jal t'a ordonné, c'est pour ton bien. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné, c'est pour ton bien. Que la sagesse t'apparaisse ou qu'elle ne t'apparaisse pas. Allah nous dit dans le Coran, dans sourate Muhammad, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Ceci car ils ont eu de l'aversion, ils ont détesté ce qu'Allah a révélé, il a donc annulé leurs œuvres. Celui qui déteste une chose qu'Allah a révélée, ça fait partie des annulatifs de l'islam.
tu dois absolument aimer ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Quant à celui qui déteste ce qu'Allah a révélé, quant à celui qui déteste ce avec quoi le messager nous est venu, celui-ci annule son islam, qu'Allah nous en préserve. Et parmi les du'as du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les hadiths du prophète alayhi salatu wa sallam, qui nous montrent l'importance du cœur et l'importance de prendre soin de ce cœur, il nous dit, ala inna fil jasadi mudra, idha salahat salaha al jasad kullu, wa idha fasadat fasada al jasad kullu, ala wa hiya al qalb. Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le reste du corps le sera. Et s'il est corrompu, tout le reste du corps le sera. Il s'agit du cœur. Donc on doit préserver ce cœur. On doit le remplir de l'amour d'Allah. Et dès lors qu'il est rempli de l'amour d'Allah, il va aimer ce qu'Allah lui a ordonné. Il va aimer sa parole. Il va aimer ses ordres. Il va aimer lire le Coran. Il va aimer ce qu'Allah a aimé. Il va aimer les prophètes. Il va aimer les anges. Il va aimer, et ainsi de suite, les gens pieux. Et parmi les du'as, parmi les grandes causes qui aident à atteindre ce niveau, c'est le premier point qu'on a mentionné. C'est l'étude de la science. Avec la science, tu vas connaître. Avec la connaissance, tu vas aimer Allah. Avec l'amour d'Allah, tu vas aimer ce qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné. Et le prophète alayhi salatu wa salam disait, Man ahabba lillah, wa abghada lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, faqad istakmala l'iman. Celui qui aime pour Allah et déteste pour Allah, celui qui donne pour Allah et retient pour Allah, aura parfait ou complété la foi. Aussi, il disait, أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. L'anse la plus solide de la foi est d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah en ces termes. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. Je te demande ton amour, l'amour de ceux qui t'aiment et l'amour de toute action qui me rapprochera de ton amour et l'amour de toute action qui me rapprochera de ton amour. Donc on doit faire les causes pour aimer ce qu'Allah Azza wa Jal nous a légiféré, pour l'appliquer avec amour, avec élargissement de poitrine, avec satisfaction. Et parmi les du'as qu'on trouve dans le Coran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ô notre Seigneur, ne fais pas flancher nos cœurs après nous avoir guidés. Wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Et accorde-nous de ta part une miséricorde. Tu es certes le grand donateur. Et pour obtenir cet amour de la part d'Allah, il y a une chose très importante à comprendre. C'est qu'Allah n'aime pas plus en matière d'action. Il n'y a pas une chose qu'Allah aime plus en matière d'action que ce qu'il t'a rendu obligatoire. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, Allah dit, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْنَ حَبَّ إِلَيْ مِمَّ افْتَرَدْتُ عَلَيْ. Et il n'y a pas une chose par laquelle mon serviteur se rapproche de plus de moi que ce que je lui ai rendu obligatoire. وَلَا يَزَلُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi en faisant des choses recommandées jusqu'à ce que je l'aime. Donc il y a un premier degré, c'est faire ce qu'Allah t'a ordonné. Il y a un deuxième degré, après avoir fait ce qu'Allah t'a ordonné, c'est ajouter ce qu'il t'a recommandé. Ajouter ce qu'il t'a recommandé. Donc il faut préserver d'abord les cinq prières obligatoires. Où on nous y appelle, au masjid. Ensuite, tu rajoutes Sunnatul Fajr. Tu rajoutes Al-Witr. Ensuite, tu rajoutes deux unités avant le Zohr. Deux unités après le Zohr. Ensuite, tu rajoutes deux unités après le Maghrib. Deux unités après l'Isha. Et ainsi, tu te développes et tu complètes cela jusqu'à te lever la nuit. Naam. Et prier Salatul Duha. Et ainsi de suite. Pour le jeûne, pareillement, tu jeûnes Ramadan. Puis tu rajoutes les six de Shawwal, le jour de Arafat, si tu n'es pas au Hajj. Ashura, et avec un jour avant. Naam, tu jeûnes dans le mois de Sha'ban et le Muharram, et ainsi de suite. Tu sors la zakat, puis tu sors des sadaqat régulièrement. Tu fais ce qu'Allah t'a commandé, tu préserves cela, puis tu ajoutes ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, mais sans le rendre obligatoire. Et si tu rajoutes cela, tu reçois l'assistance d'Allah, le soutien et le secours d'Allah. Il nous dit, وَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي أَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْتِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Et dès lors que je l'aime, je deviens l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il saisit, le pied par lequel il avance. S'il me demande, assurément, je lui accorde. Et s'il recherche protection auprès de moi, assurément, je lui accorde. Donc, Allah t'accorde la réussite dans tout ce que tu écoutes, dans tout ce que tu regardes, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu prends, où que tu te rendes, Allah t'assiste. Il t'accorde, at-tawfiq, la réussite. Parmi les grandes choses qui amènent à aimer Allah Azza wa Jal au plus haut point, c'est d'étudier ses noms et ses attributs. C'est de lire le Coran avec méditation. C'est de faire beaucoup de zikr. C'est de se rapprocher d'Allah avec les nawafil après avoir préservé les obligations. C'est le fait de faire passer ce qu'Allah aime avant ce que tu aimes toi. C'est le fait de s'asseoir dans les assises des gens qui aiment Allah. De s'asseoir dans les assises de rappel avec ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi le fait de méditer sur les bienfaits d'Allah, sur ses grâces et ses donations. Il y a le fait de passer un moment en aparté, en te rappelant la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, en l'invoquant, en t'humiliant devant lui, et que le cœur se fragmente pour lui, et qu'il jaillisse d'amour pour lui, qu'il jaillisse de crainte pour lui, tabaraka wa ta'ala. Le fait de se mettre en privé, lors de la descente divine au dernier tiers de la nuit, de le louer, de l'invoquer, et de lui demander pardon. Enfin, le fait de s'éloigner de tout ce qui est un rempart entre nous et l'amour d'Allah. Voici un nombre de causes qu'a mentionné Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala pour pouvoir se rapprocher d'Allah et pour pouvoir l'aimer. Aussi, la plupart des gens prétendent aimer Allah et son messager. Mais lorsqu'on leur dit Allah ordonné, ils ne font pas. Et lorsqu'on leur dit le messager interdit, ils le font quand même. Allah Azza wa Jal nous a testé dans le Coran et a exposé ceux qui aiment véritablement Allah et son messager en disant قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. Dit, si vous aimez véritablement Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur, très miséricordieux. Dit, obéissez à Allah et au messager. Ça, c'est le signe que t'aimes Allah véritablement. Tu suis le messager. Tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le cas contraire, on sera à l'image de ce qui a été mentionné. تَعْشِ الْإِلَهَ وَأَنْتَ تَزْعُمُ حُبَّهُ هَذَا لَعَمْرِي فِي الْقِيَاسِ شَنِيعُ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ. Tu prétends l'aimer alors que tu lui désobéis. Ceci, par analogie, est une chose très étrange, très blâmable. Si ton amour pour lui avait été véridique, tu lui aurais obéi, car celui qui aime demeure envers son bien-aimé, toujours obéissant. Le troisième point qu'on a mentionné, Al-azmu ala al-amal. Al-azim, c'est la haute détermination. C'est pas une simple pensée. C'est pas une simple envie. Al-azim, c'est la haute détermination. C'est lorsqu'il ne reste qu'un pas entre la chose et sa réalisation. Tu dois avoir une haute détermination. Car beaucoup de gens ont su, ont aimé, mais n'agissent pas, parce qu'ils n'ont pas la détermination. Ils ne sont pas déterminés. Le croyant fort, il est déterminé, il agit. Il agit. Parmi les doigts du prophète, alayhi salatu wa salam, Allahumma inni as'aluka thabata fil amr, wal azimata ala rushd. Ou Allah, je te demande le raffermissement sur l'affaire. Et la détermination sur la droiture. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit dans Miftah Dar al-Sa'ada, wa hatani al-kalimatani huma jima'u al-falah wa ma utiya al-'abd illa min tadyi'ihima. Ces deux choses-là, le raffermissement sur l'affaire, sur l'ordre, et la détermination sur la droiture, sont le concentré de la réussite. Si tu as ces deux choses-là, tu auras réuni sur ta personne toutes les causes de la réussite. Et tous ceux qui se sont égarés, qui ont échoué, raté ou se sont perdus en chemin, c'est parce qu'ils ont faibli dans l'une de ces deux choses, ou alors les deux. Soit elle a une déficience dans la connaissance, soit elle a une déficience dans la détermination pour la mise en pratique. Et celui qui sait et n'applique pas, ça sera une preuve contre lui yawm al-qiyamah. Et comme il fut dit, وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّدِ الْوَثَنِ. Et un savant qui avec sa science n'agissait pas sera châtié avant les adorateurs des idoles. Allah nous dit, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Est-ce que vous ordonnez aux gens le bien et vous vous oubliez vous-même alors que vous lisez le livre? Ne méditez-vous donc pas, ne réfléchissez-vous donc pas, ne raisonnez-vous donc pas? Allah nous dit, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une ignominie auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Et on demande pardon à Allah Azza wa Jal. Et on demande à Allah de nous sauver de ces versets. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Et parmi les trois premiers qui seront le combustible du feu de l'enfer, il y a une personne de science. Il y a une personne de science qui a appris le Coran, qui lisait le Coran, qui avait la science, qui recommandait aux gens le bien, interdisait aux gens le mal. Mais lui-même n'agissait pas conformément à ses enseignements. Et le prophète alayhi salatu wassalam a informé d'un homme en enfer qui tire ses boyaux et tourne comme l'âne tourne dans l'enclos. Alors les gens vont lui dire, oh un tel, mais tu nous recommandais le bien, tu nous interdisais le mal. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais en enfer avec nous? Nous les pécheurs, toi tu étais pieux, toi tu étais un homme de bien. Il dira, certes je vous ordonnais le bien, mais je ne le faisais pas moi-même. Certes je vous interdisais le mal, mais je le commettais moi-même. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc, il faut appliquer. Il faut appliquer. Et l'application en soi, c'est une cause de raffermissement. L'application en soi, c'est une cause de raffermissement. N'hésite pas, avance vers Allah. Et si tu fais un pas vers Allah, Allah en fera 10 vers toi. Allah nous dit dans le Coran, وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. S'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été meilleur pour eux et plus ferme en raffermissement, plus fort en raffermissement. Faire le bien, répondre à l'appel d'Allah, c'est une cause pour qu'Allah te facilite. C'est pour ça qu'il fut dit, celui qui fait une bonne action, sache qu'elle aura des sœurs. Hein? Tu fais un bien, Allah va te faciliter à faire un deuxième. Tu fais une bonne action, la deuxième, elle va t'appeler, elle va dire, fais-moi aussi. Tu fais une deuxième action, la troisième va dire, et moi aussi. Et tu ne cesseras d'être dans le bien. Prenez pour exemple celui qui a l'habitude de faire la prière chez lui. Ensuite, on lui fait da'wah. Viens faire la prière à la mosquée avec nous. Viens faire le fajr à la mosquée. Alors, il se met à aimer cette adoration. Il dit, mais subhanallah, pourquoi je fais pas la prière à la mosquée? Et il met son réveil, il se lève, il fait les ablutions. Et il se dit, je suis réveillé au Sahar, je vais faire des sirfar. Wabil ashari yum yastaghfirun. Il commence à faire les sirfar, une bonne action, il n'a même pas commencé salat. Ensuite, il se dit, mais c'est le temps de la descente d'Allah Azza wa Jalla au ciel de ce bas monde. Qui me demande, je l'exauce, je lui donne. Qui me demande pardon, je lui pardonne. Et il commence à faire dua. Puis il marche à la mosquée. Puis il s'assied à la mosquée, il attend. Il dit, mais je vais lire du Coran. Combien de bonnes actions sur le chemin du bien. Ensuite, il finit. Il entend l'adhan, il répète le adhan. Ensuite, il fait dua, ensuite il fait deux rak'a. Combien de hasanat sur ce chemin?
Combien d'actions l'ont appelé, combien il a fait, ça se multiplie, ça se décuple devant lui. Le chemin du paradis s'aplanit. Il construit son paradis. Ensuite, il fait salat avec l'imam. Puis il reste assis, il fait son zikr. Quand il finit son zikr, il se dit, j'ai rien à faire chez moi. Il fait askar al-sabah. Quand il finit askar al-sabah, il voit les papas avec le mushaf. Il dit, moi aussi, je vais prendre le mushaf. Et il commence à lire le mushaf. Un jour, un mois, deux mois. Ensuite, il voit une assise de Coran. Il voit voir l'imam. Il dit, j'ai envie d'apprendre le Coran. Il dit, assieds-toi avec nous. Et il commence à apprendre le Coran. Regardez les frères. À la base, il voulait juste faire une salat al-fajr au masjid. Il finit à apprendre du Coran. Il finit par apprendre du Coran. Hein? Ça, c'est une goutte d'eau dans la mer. Ça, c'est une goutte d'eau dans la mer. Si Allah voit du bien en vous, il vous donnera du bien. Si Allah voit du bien en vous, il vous facilitera le bien. Wallahi al-azim. Juste fait. Fais l'action. Certains frères ont dit, moi je vais un mois, on m'a dit en Égypte, c'est bien pour apprendre l'arabe. Ils sont venus un mois, et ça fait 7 ans qu'ils sont là-bas. Allahu Akbar. Certains ont dit, moi, je suis à l'aise où je suis, je viens en Égypte. Hein? Et je viens un an. Et les enfants, ils vont apprendre le Coran. Eux, ils vont apprendre l'arabe. Et ensuite, je rentre. Et ensuite, ils ont dit, non, je reste 2 ans. Ensuite, ils ont dit, je vais apprendre le Coran. Et ensuite, ils ont dit, Allah Azza wa Jal, si tu vas vers lui, tu fais une bonne action. La tsawir. Tu fais une bonne action. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te donner. Il va te donner d'où tu ne t'y attendais pas. Il y en a, ils ont dit, moi, je vais venir à la Umra. Je vais venir à la Umra, je vais faire une Umra. Subhanallah, ils ont rencontré des ulama. Ils ont fait des assises de science. Naam. Ils ont rencontré des gens. Subhanallah. Ils ont trouvé un travail. Younes, ils sont venus célibataires, ils repartent, ils vont se marier. Allahu Akbar. Ils ont trouvé une femme. La hawla wa la quwwata illa billah. Wallah, il va juste vers Allah, fait une bonne action. Tu vas repartir, tu seras riche. Tu vas repartir, tu seras riche. Il y a des frères qui sont venus. Les poches vides. Ils repartent avec de l'argent dans la poche. Allahu Akbar. Umra, argent. Youna, ils se sont mariés. Youna, on a fait leur mariage. Et ils sont revenus avec leur femme. Et ensuite, ils sont revenus avec les enfants. Wallahi l'azim, il y a des frères, ils sont assis. On les a mariés. Ils sont revenus à l'Umra avec leur épouse. Ils sont revenus après avec des enfants. Wallahi l'azim, ikhwat al-iman. Juste faites l'ibada. Obéissez à Allah Azza wa Jal. Vous occupez pas du reste. Allah, il va vous donner au-dessus de ce que vous vouliez. Au-dessus de ce que vous vouliez. Wallah. Ça, c'était le combienième point, les frères. C'est quoi le premier? La science. Quel était le deuxième? Comment? L'amour de cette adoration. Quand tu as su cette adoration et tu as aimé cette adoration, ensuite, c'est quoi? La détermination dans la mise en pratique. Une fois que tu as atteint cette détermination, tu passes au quatrième point, qui est la mise en pratique. El amal ubi. Ba'd al ilm. Thumma al mahabba. Thumma al azm al al fi'l. Ya'ti daw al amal. Là, tu mets en pratique. Et la science, en réalité, on l'étudie pourquoi? Pour la mise en pratique. Allah Azza wa Jal veut de nous qu'on accourt vers la mise en pratique. Qu'on agisse. Parce qu'en agissant, Allah va nous faire miséricorde. Et la miséricorde d'Allah a devancé sa colère. Et nous, on est entre les bonnes actions et les mauvaises. Et Allah Azza wa Jal a le choix entre nous châtier, nous faire miséricorde. Mais il préfère nous faire miséricorde. Et il a inscrit dans un livre qui se trouve auprès de lui au-dessus du trône, Sabaqat rahmati ghadabi. Ma miséricorde a précédé ma colère. Allah Azza wa Jal nous invite, ikhwat al-iman. Et il nous dit dans son livre, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Empressez-vous, accourez vers un pardon de la part de votre Seigneur. Le prophète alayhi salat wa salam nous invite, badiru bil a'mal. Empressez-vous de faire des bonnes œuvres parce qu'il y aura des troubles. Il y aura des fitnes. Empressez-vous. Aujourd'hui, tu as la santé, fais le hajj. Aujourd'hui, tu as de l'argent, fais le hajj. Peut-être viendra un temps, tu n'auras pas l'argent, tu n'auras pas la science. Aujourd'hui, tu as la santé. Aujourd'hui, tu as du temps. Voyage, va chercher la science. Voyage, va chercher la science. Va en Égypte. Va chercher la science. Prends l'arabe, prends le Coran, prends les ulum, al-ala, prends les usul, prends les bases. Viens à Médine, viens t'asseoir devant les ulama. Viens prendre le ilm. Va en Algérie, prends le ilm. Où tu trouves le ilm chez ulama al-sunna, va. Prends le ilm. Prends le ilm. Comment se fait-il que si on nous posait un seau rempli d'or, on n'en laisserait rien? On ne laisserait rien de ce pot. Et même si les poches étaient pleines, on enlèverait le kamis pour mettre dessus et le porter. C'est trop lourd, laisse un peu. Non, t'inquiète pas, je me débrouille, je vais trouver une solution. Hein? Et quand il y a l'ilm, il est là, on vous dit prenez, c'est l'héritage du messager. Moi, je vais prendre un mois, moi, je prends une goutte, moi, je prends une cuillère. Lui, il prend même une paille, lui, il prend rien. A'ouzou billah. Prends. C'est l'héritage du meilleur des hommes. Certains se combattent pour l'héritage. Il y a même des koufars qui ont tué leurs parents pour prendre l'héritage. Hein? Dans les faits divers, tu trouves ça. Wal'iyadou billah. Nous, le meilleur héritage, c'est pas l'héritage de nos parents. C'est l'héritage du prophète, alayhi salatu wassalam. Wallahi, l'héritage de ma mère, j'ai donné à mes sœurs. Wallahi, l'héritage, j'ai donné à mes sœurs. Arrahimahallah. Mais l'ilm, on est parti le chercher. L'ilm, on laisse pour personne. Va prendre ta part. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a laissé ta part. Pourquoi tu vas pas la prendre? C'est le meilleur des héritages. Va, apprends les lettres de l'alphabet. Quand t'as appris les lettres de l'alphabet, t'apprends à écrire, à coller le ba avec le ta. Quand t'as fini ça, tu vas apprendre du tajwid, les bonnes prononciations. Ensuite, les sifat des huruf. Ensuite, tu vas t'asseoir devant un shir. Un, tu prends l'arabe. Un autre, tu prends le Coran. Au bout de quelques mois, tu vas chercher un shir qui va t'enseigner le tawhid. Après avoir pris chez les du'at, tu vas t'asseoir chez un shir. Tu vas apprendre salatatul usul. Tu le mémorises par cœur. Tu étudies le charh devant lui, tu t'assieds avec modestie et tu lui demandes de t'apprendre comment on s'éduque, comment on s'assied, comment on parle, comment on pose la question. Tu vas t'éduquer. Comme ton père t'a éduqué pour la dunya, le shir t'éduque pour le din. Lui, c'est un père d'affiliation, lui, c'est un père spirituel. Ensuite, tu étudies le qad arba, ensuite kitab et tawhid. Puis tu prends dans le fiqh, menhaj salikin, tu prends tahara, tu prends salat, tu prends zakat, tu prends... T'étudies la sira, t'étudies le mustalah, t'étudies usul al-fiqh, t'étudies usul al-tafsir. Tu prends la science. Ça, c'est l'héritage du prophète, alayhi salatu wassalam. Comment tu peux laisser aux autres la plus grande part? Comment tu peux tourner le dos à l'héritage de celui qui était pour nous comme un père? Il a dit, je suis pour vous comme un père, je vous enseigne. Sallallahu alayhi wa sallam. Et la chose la plus importante, ikhwat al-iman, après al-tawhid, c'est la prière à l'heure. La prière à l'heure, c'est pas que quand t'es en Umrah, à Mecca, à Medina. La prière à l'heure, ikhwat al-iman. La prière à l'heure avec les hommes. Wallahi al-azim, il y a un enfant, à Salatul Fajr. Tous les jours, il est là. Il a 5 ans. 5-6 ans, il est tous les jours à Salatul Fajr. Et la plupart des jours, il arrive avant moi. 80%, il arrive avant moi. Il arrive avant son père, Allahu Akbar. Tous les jours, il est là. Subhanallah. Et nous, on est des adultes. On est des pères de famille. Hein? Certains sont même inscrits dans des salles de sport. Ils portent du fer, de la fonte. Lui, il dit, moi, je porte 50. L'autre, il dit, moi, je porte 100. Hein? Et il n'arrive pas à porter une couverture. C'est ça ou pas? Il n'arrive pas à soulever la couverture pour se lever pour Salat al-Fajr. Elle sert à quoi ta force? Tu dis, moi, je suis fort. Et moi, j'ai. T'arrives pas à soulever la couverture. T'es un gros faible. Sache-le, t'es un faible. T'arrives pas à lever la couverture pour Salat al-Fajr. T'es un faible. T'es pas un homme. Nos femmes, elles se lèvent, elles nous réveillent. T'es pas un homme. T'es juste de sexe masculin. Tu te lèves pas pour Salat al-Fajr. Tu fais pas Salat al-Fajr à l'heure. Tu vas pas prier avec les hommes. T'es comme les femmes. Tu restes à la maison avec les femmes et les enfants. Il s'en faut de peu pour que ce soit toi qui demande la permission pour sortir. Fais attention à toi. Salat al-Fajr, c'est ça qui montre que t'es un homme. Ça, c'est dans le Coran, c'est pas ma parole. Tu préserves pas la salat au masjid. Le masjid ne te connaît pas, t'es pas un homme. Ça, c'est dans le Coran. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, fi buyutin adhina Allahu an turfa wa yuzkara ismuhu. Wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijal. Qui sont les hommes? Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawma tataqallabu fihi alqulub wal absar. Ça, c'est les hommes. Certains disent, moi, je suis un homme. Moi, je fais. Il arrive même pas à dépenser pour son épouse. Il dit, c'est un homme. Il s'occupe pas de ses enfants. Il dit, c'est un homme. Il fait pas salat au masjid. Il dit, c'est un homme. En quoi t'es un homme? T'es de sexe masculin. Mais t'es pas un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui a peur d'Allah. Un homme, c'est quelqu'un qui délaisse le haram par peur d'Allah. Un homme, c'est quelqu'un qui aime Allah. Un homme, c'est quelqu'un qui s'occupe de sa mère, qui s'occupe de son père. Un homme, c'est quelqu'un qui chérit son épouse. Un homme, c'est quelqu'un qui s'occupe de ses enfants. Un homme, c'est celui qui défend le faible et l'opprimé. Un homme, c'est celui qui prépare sa tombe. Un homme, c'est celui qui construit son paradis. Ça, c'est un homme. Emma, celui qui n'arrive pas à porter la couverture. Et il dit, moi, je suis le plus fort du quartier. Moi, je suis le plus fort de ceci. Et moi, au sport, je fais ça. Et moi, je fais du développé couché. T'es couché tout court. Tu développes rien du tout. Tu développes rien du tout. Salatul Fajr, c'est ça qui développe les hasanat. C'est ça qui développe les hasanat, ikhwat al-iman. Wallahi l'azim, si on ne fait pas cette salat, pour qu'est-ce qu'on fait dans ce bas monde? Si on abandonne la salat, si le patron dit couche-toi, tu dis je me couche. C'est quoi la différence entre un humain et un kelp? Wallahi, le patron il dit couche-toi salat à l'heure de la salat. Toi couche-toi toi-même. Moi je vais me lever pour mon Seigneur. Si tu veux me garder dans ton entreprise, c'est Allah qui t'a donné ta vie et l'entreprise. Et moi je travaille à l'heure. Je peux faire plus pour moi. Mais que moi, je vais délaisser la salade et rattraper toutes mes salades le soir comme un coq. Moi, je suis un serviteur d'Allah, je suis un homme. Je fais la prière à l'heure. Tu veux me garder dans ton entreprise? Je ferai le meilleur. Et je serai le meilleur. Mais tu veux que je travaille et que j'abandonne mon au-delà? Nous, on connaît pas ça chez nous. Nous, on est des hommes. Barakallahu fikum. Préserver la salade, c'est l'action des hommes. Abdullah ibn Mas'ud nous dit, à mon époque, chez les sahaba, personne manquait salat al-fajr. Jusqu'à ce que l'homme malade, on le porte entre deux hommes en bonne santé et on le ramène, on le met dans les rangs. Et il y avait qu'un hypocrite dont l'hypocrisie était notoire, connue, qui délaissait la prière en groupe. Est-ce qu'on n'a pas peur pour nous d'avoir un peu d'hypocrisie dans le cœur? Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Ikhwat al-iman. L'homme al-qiyam, Allah va nous plonger dans les ténèbres et va donner à chacun une lumière. Vous voulez pas une lumière complète? Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, Bashir il-masha'in, fi dhulam, bin nuri tam, yom al-qiyam. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui marchent dans les ténèbres, c'est-à-dire pour salat al-fajr, annonce-leur la bonne nouvelle d'une lumière complète le jour de la résurrection. Et en chemin, le prophète demandait à Allah de lui rajouter lumière, de parfaire sa lumière, de mettre de la lumière ici, et là, et là, et là. Et ainsi de suite. Mets en pratique cette salate, préserve cette salate, puis les autres piliers de l'islam. Le cinquième point, ikhwat al-iman, quand tu mets en pratique l'adoration, fais attention à deux choses. L'adoration n'est pas acceptée chez Allah sans deux conditions. La première condition, al-ikhlas. Allah nous dit, ala lillahi ad-dinul khalis. Allah nous dit, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa. Et ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah seul d'un culte sincère. N'est-ce pas Allah qui appartient à la religion pure? Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, Allah dit, ana aghna shuraka'i 'ani shirk. Man 'amila 'amalan ashraka ma'iya fi ghayri taraktuhu wa shirka. Wa fi riwaya fa huwa lilladhi ashrak. Allah dit dans le hadith Qudusi, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Celui qui fait une action en me donnant un égal, un associé, je l'abandonne lui et son action. Allah accepte que ce qui est fait purement et sincèrement pour lui. La deuxième condition, ça c'est pour le cœur. C'est la balance des œuvres intérieures. La sincérité. Pour qui tu fais l'acte? Pour Allah. Qui tu cherches? Allah. Qu'est-ce que tu veux? Le paradis d'Allah. Ça c'est la sincérité. Tasfiyatul amal. Tasfiyatul amal. L'épuration de l'œuvre. Que pour Allah. Mais ça, ça suffit pas. La deuxième condition, al-ittiba. Mutaba'atul imam al-a'zam, mutaba'atul al-mursal, mutaba'atul rasul sallallahu alayhi wa sallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allah nous dit dans le Coran, vous avez un parfait exemple, c'est-à-dire à suivre en la personne du messager d'Allah. Allah dit wa ma atakum ar-rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ce que le messager vous donne, prenez-le. Ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, ay mardudun ala sahibi. Quiconque, c'est-à-dire qu'il soit un homme, une femme, petit, grand, fait une action, c'est-à-dire un acte d'adoration, mais qui n'est pas en conformité avec notre ordre, c'est-à-dire la chose qui est propre à nous, notre religion, pas la chose de dunya. Il fait une action, qui concerne le dîn, une adoration, et il ne la fait pas comme le prophète alayhi salat wa salam lui a enseigné, fahuwa rad, Allah ne l'accepte pas. Quelle que soit la fatigue, quelles que soient les dépenses, Allah ne l'accepte pas. Il faut faire les choses comme Allah nous l'a ordonné, comme le prophète alayhi salat wa salam l'a enseigné. Toi, t'adores pas Allah comme tu veux. T'adores Allah comme il te l'a enseigné. Parce que Allah, c'est ton maître. Et toi, tu es son serviteur. Et le serviteur, il suit son maître. Il fait pas comme lui, il veut. Il fait comme son maître veut. Allah, Azza wa Jal, sait qu'on n'a pas la capacité de savoir comment acheminer vers lui. Alors, il nous a envoyé le messager avec le Coran, avec la Sunna, pour nous enseigner. Et il t'ordonne dans le Coran de lui répondre. Ya ayyuha alladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasul. Idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous qui avez cru. Et répondez à l'appel d'Allah et de son messager. Et du messager lorsqu'il vous appelle à ceux qui donnent la vraie vie. À ceux qui donnent la vraie vie. Donc ça ne suffit pas de faire. Avant de faire les ablutions, demande comment le prophète alayhi salat wa salam a fait. Avant de faire salat, demande comment le prophète salam a fait salat. Avant de sortir zakat el fitr, demande comment il a sorti. Est-ce qu'on peut donner de l'argent? Est-ce qu'on peut donner une semaine avant? Est-ce qu'on peut donner à un non-musulman? Est-ce qu'on peut donner à un riche? Il faut regarder comment on fait zakat el fitr. Il faut apprendre. Il faut aimer zakat el fitr. Il faut avoir la ferme intention de la donner. Il faut la donner. Et il faut la donner sincèrement pour Allah et en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le cinquième point. Celui qui est pas sincère, il va tomber dans le shirk. Celui qui suit pas la sunna, il va tomber dans la bid'a, qu'Allah nous en préserve. Le sixième point, ikhwat al-iman, at-tahdhir min fi'li ma yuhbitu. Prends garde à tout ce qui peut annuler les œuvres. Et vous visualisez une personne qui a fait ses ablutions. Est-ce que ça veut dire qu'il garde ses ablutions à vie? Hein? Est-ce que ça veut dire qu'il garde ses ablutions à vie? D'accord. S'il rentre aux toilettes, il fait ses besoins, karamakumullah, et il sort. Est-ce qu'il a toujours le wudu ou pas?
Non.
Il a annulé. Eh ben, les bonnes œuvres, il faut les préserver. Les bonnes œuvres, il faut les préserver. Allah a dit dans le Coran, an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Qu'est-ce qu'on a entendu au salat où? Dans la salat ce soir? Ô vous qui avez cru, n'élevez pas votre voix au-dessus de la voix du messager, comme vous surélevez vos voix les unes au-dessus des autres, de peur que toutes vos œuvres deviennent vaines sans vous en rendre compte. Sans vous en rendre compte. Je ne dois pas élever la voix au-dessus du prophète, alayhi salatu wassalam, de son vivant. Et après sa mort, tu ne dois pas dire avant qu'il ait dit quelque chose. Et tu ne dois pas faire avant qu'il ait ordonné une chose. Et la pire chose qui annule les bonnes œuvres, c'est le shirk billahi al-azim. Allah dit dans le Coran, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَأَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ. Il t'a été révélé, c'est-à-dire à toi, au messager d'Allah, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, c'est-à-dire les prophètes et les messagers. Si tu fais du shirk, toutes tes œuvres deviendront vaines, annulées. Le shirk, ça détruit les œuvres. Comme le feu, ça brûle. Et comme l'eau éteint le feu. Le shirk qui ne laisse aucune œuvre si c'est le polythéisme majeur. Et il détruit l'œuvre si c'est le polythéisme mineur, qu'Allah nous en préserve. Le shirk, c'est prendre le droit d'Allah et l'attribuer à la créature d'Allah. Tu dois étudier ça. C'est quoi le shirk? Tu dois l'étudier. Tu dois aller chercher des gens de science parmi les gens de la sunna et leur dire, j'ai entendu que le shirk, c'est le pire des péchés. Explique-moi c'est quoi le shirk. Le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit, ne vais-je pas vous informer des pires péchés? El ishraku billah, le shirk. C'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit en dessous du shirk, il pardonne à qui il veut. Celui qui rencontre Allah yawm al-qiyama avec tous les péchés de la terre. Mais il n'a pas de shirk, Allah peut lui pardonner s'il veut. S'il ne veut pas, il le met en enfer un temps déterminé, puis il le sort, il le met au paradis. Ya ibn Adam, لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر الله أكبر. Dans le dernier hadith de l'Arba'in Nawawiyya, on nous dit, ô fils de Adam, si tu venais à moi avec l'étendue de ce que la terre peut porter comme péché,
Puis que tu venais à moi sans m'avoir associé quoi que ce soit, je viendrai à toi avec l'équivalent en pardon. Regardez, subhanallah, la puissance du tawhid et la dangerosité du shirk. Et la dangerosité du shirk. Le shirk qui ne laisse aucune œuvre. Le shirk qui le fait sortir de l'islam. Le shirk qui rend même le paradis haram. Il rend le paradis haram. إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Certes, celui qui fait du shirk, le paradis lui devient haram, interdit. Sa destination sera l'enfer. Et pour les injustes, nul secours. Et la première fois que j'ai mis mon pied dans ce noble pays, le pays de l'Haramain, et que je me suis assis devant un grand savant, Cheikh Saleh Al-Fawzan, il enseignait Kitab al-Tawhid. Il y a 21 ans, et il a mentionné ce verset. Et il a dit, hey, ma lahu ma'wa illa an-nar. C'est-à-dire qu'il n'aura aucune autre destination, aucune autre finalité. Il ne bougera jamais d'un endroit vers un autre, si ce n'est l'enfer. Ça, c'est le résultat du shirk. Il faut avoir peur du shirk. Il faut s'éloigner du shirk. Parce que c'est le pire des péchés. Enfin, ikhwat al-iman, quel était le premier point? Quand Allah nous ordonne une chose, il y a 7 points à respecter. Le premier, c'est quoi? La science, tu dois étudier ce point. Le deuxième, c'est quoi? L'amour de cet ordre. Le troisième? Al-azmu ala fi'li, la détermination pour l'appliquer. Le quatrième? Al-amal, le mettre en pratique. Le cinquième? Le mettre en pratique comment? Khalisan sawaban, sincèrement pour Allah, en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Le sixième point? At-tahdhiru min fi'li ma yuhbitu, s'éloigner de tout ce qui peut annuler notre œuvre. Et on passe au septième et au dernier. On passe au septième et au dernier point. Al-thabatu alayhi. Quand t'as réuni ces 6 points-là, est-ce que c'est fini? T'as jeûné Ramadan, t'as prié la nuit, hein? Tu rentres chez toi, c'est fini? Ça s'arrête là? Non. Tu dois rester constant. Tu dois rester constant sur la vérité. Et c'est pour ça que les pieux prédécesseurs, la chose la plus terrible pour eux, c'était la peur de la mauvaise fin. C'était la peur de la mauvaise fin. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, wa inna ar-rajul la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira' fa yasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Et l'homme ne cesse de faire les actions des habitants du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et l'entrée au paradis qu'un empan. Son livre le précède. Il se met alors à faire les actions des habitants de l'enfer et il finit par y entrer. Il finit par y entrer. Et ça, c'est ce qui a terrorisé les gens pieux avant nous. Ils étaient sur la piété, mais ils avaient peur qu'à la fin, ils perdent le tawfiq, l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sofyan ibn Abdillah al-Thaqafi a dit à Rasulallah, « Qulli fil islam » قولا لا اسال احدا غيرك او بعدك. Ô messager d'Allah, dis-moi une parole en islam au sujet de laquelle je n'aurai besoin d'interroger personne après toi ou en dehors de toi. Il lui a dit, قل آمنت بالله ثم فاستقم. Dis, j'ai cru en Allah. Puis observe la droiture. J'ai cru en Allah, c'est-à-dire la sincérité. فاستقم, puis suis le chemin du messager. Puis suis le chemin du messager. Allah Azza wa Jal, s'il voit le bien dans votre cœur, vous accordera la bonne fin. Et celui qui vise le bien, il le trouvera. Imam Ahmed rahimahullah ta'ala disait souvent à son fils Abdullah rahimahullah, inoui khayran tajid khayra. Mais une bonne intention, tu trouveras toujours le bien devant toi. Tu trouveras toujours le bien. Allah Azza wa Jal nous annonce la bonne nouvelle dans le Coran. La bonne nouvelle qu'il secourt ses serviteurs pieux, ses serviteurs croyants, au moment où ils en auront le plus besoin. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Allah raffermit avec la parole de vérité, c'est-à-dire la ilaha illallah, dans ce bas monde et dans l'au-delà, c'est-à-dire en répondant correctement aux anges, aux trois questions dans la tombe. مَنْ رَبُّكَ مَا دِينُكَ. Et que dit-il de cet homme qui vous a été envoyé, c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on doit avoir peur. Le prophète alayhi salatu wasalam nous dit, celui dont la dernière parole de ce bas monde sera la ilaha illallah, il entrera au paradis. Donc il faut s'accrocher à cette parole, ikhwat al-iman. Il faut étudier cette parole. Il faut la répéter beaucoup dans les invocations, le matin, après les salats, le soir, avant le coucher, et ainsi de suite, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse. Umm Salama entendait très souvent le prophète alayhi salatu wasalam dire, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Elle lui a, ô toi qui détiens les cœurs dans sa main, ô toi qui tourne les cœurs, qui les bouleverse, raffermis mon cœur sur ta religion. Ô messager d'Allah, très souvent tu dis ça. Est-ce que tu as peur? Il a dit, comment est-ce que je pourrais ne pas avoir peur? Alors que les cœurs sont dans, entre deux doigts de la main du tout miséricordieux. S'il veut, il les maintient sur la droiture. S'il veut, il les égare. Donc les frères, on demande à Allah Azza wa Jal de nous maintenir sur la vérité, de nous permettre d'apprendre sa religion, de suivre la sunna de son messager, puis de rester constant sur ce chemin. Il nous reste quelques heures, quelques jours avant la fin du mois de Ramadan. Et ça n'est pas terminé. Ça n'est pas terminé. Mettez donc tous les efforts possibles afin que le jour du Eid soit réellement pour nous un jour de fête. Le jour du Eid, c'est réellement un jour de fête pour celui qui a réussi son mois de Ramadan. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات